diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Prague, dans cette émission préparée pour vous par la rédaction française. Anna Kobechta reçoit Jan Zelenka, artiste tchèque installé en France depuis la fin des années 70. Dans sa rubrique littéraire, Václav Richter vous présentera une encyclopédie intitulée « L'abécédaire du socialisme réel » et qui se rapporte à la période du communisme en Tchécoslovaquie. Au sommaire de cette émission également, notre rendez-vous bimensuel autour de vos lettres. Le Centre tchèque de Prague propose jusqu'au 25 février prochain une exposition intitulée « Nebe peklo hrách »« Cieux, enfer, petit pois » de Jan Zelenka, artiste tchèque installé en France depuis la fin des années 70. À l'occasion du vernissage, début février, il était accompagné du directeur du Centre tchèque de Paris, Martin Bonnart, que Radio Prague a également rencontré à cette occasion. Le quartier d'enfance de Jan Zelenka, Malá Strana, à Prague, a marqué sa création. Il en dit plus au micro d'Anna Kubišta.
Culture sans frontières.
C'est peut-être une idée un petit peu romantisante, mais je pense que si, parce que c'est difficile d'échapper quand vous grandissez depuis votre naissance dans un lieu qui est très très marqué, surtout par le style baroque. Alors, vous êtes marqué forcément, on ne peut pas échapper. Et moi, ça me va très bien, hein, je ne me plains pas. L'esprit baroque me convient complètement, oui. Parce que l'esprit baroque peut se lier très facilement avec un certain expressionnisme moderne ou même post-moderne, si on peut dire. Voilà.
Alors, vous vivez à Paris depuis 1978. Est-ce que vous avez trouvé un quartier similaire là-bas qui vous inspire autant, ou en tout cas qui vous marque de la même façon que Malá Strana? Parce que là-bas, le baroque, c'est pas aussi présent.
Non, c'est vrai que baroque est peu présent ou moins présent qu'à Prague, et il est un petit peu différent. Il est moins mouvementé, mais si, moi je suis dans le quartier, je suis pas dans le quartier latin, mais j'étais dans le quartier de Belleville, où déjà le terrain, qui est un petit peu en vague, c'est une colline, c'est pittoresque. Alors ça me remplace Malá Strana parfaitement, oui.
C'est
Belleville.
C'est un quartier très multicolore, très multiculturel aussi.
Voilà, aussi, oui. Et puis, là, c'est là où j'habite. Sinon, je travaille dans le quartier tout près de la Bastille, qui a une tradition de fabrication de meubles. Et parce que, maintenant, on fabrique moins les meubles dans le style de Louis XIV, Louis XV, parce que les gens achètent chez Ikea. Alors, les menuisiers qui partaient ont laissé les ateliers, ils ont cédé les ateliers aux peintres, sculpteurs ou les artisans.
Est-ce que si on pouvait revenir un petit peu, à votre venue à l'art, comment est-ce que vous êtes justement arrivé à l'art? Est-ce que ça a été, par exemple, je ne sais pas, une œuvre qui vous a frappé autrefois? Est-ce que c'était quelque chose dans la famille également? Ou alors, finalement, qu'est-ce qui vous a mené? Quel a été un petit peu votre cheminement vers l'art?
Oui, à vrai dire, je ne me rappelle absolument pas, parce que il y a des premières photos où je tiens debout et je fais des gribouillis sur le mur. J'avais peut-être 2 ans, je sais pas. L'enfant de 2 ans, il peut tenir debout, je crois. Oui.
Alors, peut faire des bêtises et gribouiller sur les murs.
Alors, c'était une activité qui me convenait déjà sans savoir. Peut-être que qu'est-ce que je fais exactement. En tout cas, c'était complètement abstrait. C'était pas du tout figuratif que je faisais ces gribouillis sur le mur à 2 ans. Oui, ça me plaisait toujours, et c'était toujours complètement naturel pour moi. Et c'est vrai que j'ai hérité quelque chose de mon père qui était très doué pour cela, bien que dans la vie il était comptable, alors il n'a pas réalisé son rêve. Mmh. Voilà.
Alors vous l'avez réalisé. Vous avez une exposition à l'heure actuelle donc au Centre Tchèque à Prague. Cette exposition, alors en tchèque, s'appelle Nebe Peklo Hrach. Je ne sais pas trop comment on peut précisément traduire en français pour rendre peut-être le jeu de mots. Cieux, enfer, poids, petit poids.
Enfer, petit poids. Voilà. Oui, oui, oui. Et ça correspond au sujet qui sont sujets de tableau. Ou de la majorité des tableaux, parce que, justement, un élément baroque, le mouvement est exprimé par le mouvement des objets, que sont souvent des légumes ou des fruits. Quelquefois c'est le vol, quelquefois c'est la chute. L'enfer... Quelquefois, les petits pois qui tombent du ciel bombardent l'enfer, c'est-à-dire la destruction du mal de l'enfer. Voilà. Alors, l'enfer aussi, il est présent sur le tableau. Et puis, ce sont les petits pois qui les bombardent. Et il a aussi une sculpture, c'est une sculpture plafonnière qui est assez grande. Et ça, c'est le vol des petits pois. Bon, alors il y a le ciel, surtout les nuages, qui aussi expriment le mouvement. Il y a l'enfer, et il y a aussi les petits pois. Il n'y a pas de paradis.
Comment ça se fait?
Oui, ça va se faire bientôt peut-être.
Cette exposition dure au Centre Tchèque jusqu'au 25 février. C'est votre première exposition ici en République Tchèque?
Oui, effectivement, c'est ma première exposition.
Comment ça se fait?
Non, parce que après avoir fait mes études ici aux Beaux-Arts, j'ai, pour gagner ma vie aussi, j'ai travaillé dans le domaine de la sculpture appliquée, de la sculpture décorative, et j'ai commencé vraiment à exposer en France.
Dans quelles conditions êtes-vous parti en France? C'était en 1978. Et pourquoi?
J'ai épousé une Française. Voilà, c'était une bonne raison.
C'est une très bonne raison. J'ai également lu que sur commande de l'Hôtel de la Monnaie à Paris, vous aviez fait une médaille pour Miloš, enfin une médaille commémorative, ou je sais pas comment on dit exactement,
non,
pas commémorative, enfin, pour Miloš Forman.
C'est que la Monnaie de Paris voulait faire une série de metteurs en scène, de metteurs en scène de cinéma. Il y a un autre Tchèque, mon voisin Jan Tesar, qui a fait Orson Welles. Et là, j'ai proposé d'abord Kurosawa, et ils m'ont dit « Ah mais non, 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 vous êtes tchèque, vous allez faire Miloš Forman, voilà. » Alors j'ai fait Miloš Forman, ça m'a donné même l'occasion de lui serrer la main, parce qu'il a fallu qu'il donne son accord personnel. Alors je l'ai rencontré, et alors ce sont des médailles de pas très grande taille, disons, je sais pas, 12, 14 centimètres, qui sont éditées en bronze et qui sont vendues dans les points de vente de la Monnaie de Paris.
Je me tourne 5 minutes vers vous, Martin Bonhals. Vous êtes le directeur du Centre Tchèque à Paris, cette fois-ci. Cette exposition se déroule au Centre Tchèque à Prague. Quelle est la collaboration, en fait, entre les deux centres? Et puis, comment ça se fait que finalement ça se déroule ici, par exemple, pas à Paris?
Bon, le centre tchèque de Paris fait partie d'un réseau des centres tchèques partout dans le monde. On est, je crois, 22. Surtout en Europe, mais on a aussi un centre au Japon et aux États-Unis. Le centre tchèque de Prague a une fonction particulière puisque c'est le seul centre tchèque qui ne se trouve pas à l'étranger. Et l'idée est donc de donner à disposition cet espace pour des projets en collaboration avec surtout les pays et les institutions où se trouvent les autres centres tchèques. Donc le fait que qu'on a trouvé cette collaboration avec le centre tchèque de Prague, ça s'inscrit plutôt dans une conception du centre tchèque de Prague, qu'ils essayent de prendre des projets qu'ils trouvent sans bonnes des autres centres tchèques et leur donnent un espace pour le présenter au public tchèque aussi, pour que le public tchèque voit ce qu'on fait à l'étranger. Mais aussi, ils font des autres choses, par exemple, en collaboration avec l'ambassade d'Israël ici à Prague, ils ont fait une belle exposition. Donc, ça s'inscrit plutôt dans cette logique-là.
C'est intéressant, finalement, c'est le centre tchèque de Paris qui fait découvrir aux Pragois un artiste d'origine pragoise, et puisque c'est sa première exposition ici, cette exposition Nebe Peklohrach. Donc c'est un peu le paradoxe, finalement, c'est le centre tchèque de Paris qui fait découvrir aux Pragois un artiste natif.
C'est le paradoxe de notre histoire récente. Que voulez-vous que je vous dise? C'est malheureusement telle est la situation. Vu notre histoire récente, il y a beaucoup beaucoup de personnages qui sont partis pour des raisons multiples et qui ont vécu ou qui vivent encore toujours à l'étranger et qui ont fait leur vie là-bas. Et les Tchèques ne sont pas forcément au courant. Et je crois qu'il est important qu'on le rappelle aussi aux Tchèques qui sont restés en République tchèque, ou en Tchécoslovaquie en l'occurrence, qu'il y a une histoire récente qui se déroule aussi à l'étranger.
Merci beaucoup.
C'était l'artiste Jan Zelenka et le directeur du Centre tchèque de Paris, Martin Bonnard, dans Culture sans frontières. Je rappelle que les œuvres de Jan Zelenka sont à voir jusqu'au 25 février prochain au Centre tchèque de Prague. Le froid glacial qui s'est abattu sur Prague ces derniers jours ne nous a pas empêchés d'aller chercher le courrier dans notre boîte à lettres. Beaucoup de lettres et de messages en ce début de février où nous vous conseillons de rester bien au chaud chez vous, à nous écouter plutôt que de mettre le nez dehors. Le courrier des auditeurs, ce sera aujourd'hui avec Jean-Sébastien Létan et Václav Richter.
Courrier des auditeurs. Nous commençons tout d'abord par une question bien légitime de Monsieur Abdelhamid Djebari qui nous demande des informations sur le climat actuel en République tchèque. Comme vous pouvez vous en douter, notre pays est victime de la vague spectaculaire de froid qui touche en ce moment toute l'Europe. Depuis une semaine, le mercure atteint des températures records dans les moins 10 degrés en moyenne la journée à Prague et jusqu'à moins 20 degrés la nuit. Mais dans les campagnes, le froid est encore plus impressionnant. Comme nous le mentionnions sur notre site il y a quelques jours, le mercure est descendu jusqu'à moins 39 degrés la nuit dans le parc naturel de la Šumava. Il faut savoir que la République tchèque possède un climat continental tempéré. Traditionnellement, les étés y sont donc chauds et les hivers froids et neigeux. Ces caractéristiques ont tendance à s'estomper avec le supposé changement climatique. Mais un hiver comme celui-ci ne revêt finalement aucun caractère exceptionnel pour le pays. Suite à l'article de Guillaume Narguet à propos des expressions tchèques servant à exprimer l'optimisme et le bonheur, Monsieur Dominique Glocheux, auteur spécialisé dans le développement personnel, nous a écrit le message suivant.
À la suite d'une histoire étonnante, les éditions Moto publient La vie en rose, mode d'emploi en tchèque. Il y a 8 mois, un inconnu est arrivé au siège des éditions Moto à Prague, a demandé à rencontrer un responsable. Il a alors sorti un petit livre rose et expliqué qu'il réside en Suisse, qu'il était en train de mettre de l'ordre dans toute sa maison quand il est tombé par hasard sur ce petit livre rose en français. Il l'a ouvert, s'est mis à le lire un peu, puis finalement l'a tout lu d'une seule traite, puis l'a relu entièrement une seconde fois, et comme à cette époque sa meilleure amie était malade à l'hôpital, alors il lui a apporté son petit livre rose, et dès qu'elle s'est mise elle aussi à le lire et le relire, elle a aussitôt commencé à se sentir en meilleure santé. Alors le visage de l'inconnu s'est éclairé, et il a simplement demandé à la responsable de chez Moto, « Pourriez-vous le publier aussi en tchèque ?»
Et la réponse a été positive. En effet, le livre de Monsieur Glocheux, véritable succès en France, a été publié en tchèque et est donc maintenant disponible en 16 langues dans le monde. Vous pouvez le trouver en République tchèque sous le titre « Ružový život na vodky použití » et ainsi mettre du bonheur dans votre vie. Salutations à notre auditeur de longue date, Philippe Marsan, qui nous a écrit de Gironde. Il nous demande s'il existe également en République tchèque des formes de superstition concernant le 21 décembre 2012 et la supposée fin du monde prévue à cette date par certaines théories ésotériques. Il faut savoir que, à l'instar des autres pays d'Europe occidentale, les jeunes tchèques sont très réceptifs aux modes de pensée et aux théories dites alternatives. Cependant, il semble que la théorie du 21 décembre 2012 se soit, tout comme ailleurs, vite essoufflée et n'ait plus vraiment d'écho. Saluons Osamu Aikawa, qui nous a envoyé de belles photos du Japon sous la neige. Il semble que l'archipel nippon connaisse des précipitations beaucoup plus importantes que Prague, qui commence à peine à se couvrir d'un fin manteau blanc. Par ailleurs, nous avons de nouveau reçu quelques cartes postales qui iront agrémenter la décoration de notre bureau. Merci à Roger Roussel du Canada pour la belle image de Harfang des Neiges qu'il nous a envoyée, mais également à Maurice Étriard et à Maurice Mercier. Madame Geneviève Chaduteau du mouvement français Léoch Janáček nous a également fait parvenir la revue de son association, très complète et documentée. Merci à elle, l'exemplaire nous servira à préparer nos prochaines émissions musicales, car le catalogue des œuvres de Bohuslav Martineau y est très complet. De la même façon, nous avons également reçu le bulletin de l'Association des originaires et amis des pays tchèques et slovaques, qui est consacré à Václav Havel et qui constitue un bon résumé de la vie de ce grand homme. Autrement, nous avons reçu énormément de rapports d'écoute en ce début de mois de février. Merci à vous tous. Merci à Monsieur Jamais, radio amateur, qui nous a envoyé une bonne liesse. Merci à Monsieur Hervé Brien qui a beaucoup aimé l'article sur Tchéhomor paru dans la rubrique Dimanche Musical et nous demande si Český rozhlas dispose d'une boutique internet pour acheter des CD. En effet, vous pouvez la retrouver sur www.rozhlas.cz/oprod. Il existe plusieurs sites qui envoient des CD tchèques par correspondance. Une recherche sur le web vous permettra de les trouver facilement. Merci également à Philippe Aubray pour ses nombreux rapports et pour sa fidélité. Toute la rédaction française de Radio Prague vous remercie pour vos messages de soutien et pour votre fidélité. Continuez à nous écouter, à nous écrire en attendant le dégel. Nous espérons que vous ne souffrirez pas trop du froid et à bientôt sur les ondes de Radio Prague.
Merci à Jean-Sébastien pour le courrier des auditeurs. Dans la rubrique littéraire, Václav Richter attirera votre attention sur un livre qui rouvre un chapitre douloureux de l'histoire moderne du peuple tchèque. L'ouvrage évoque la vie en Tchécoslovaquie sous le régime communiste, mais il démontre en même temps que cette triste période n'était pas dépourvue d'humour.
Rencontre littéraire. C'est une curieuse encyclopédie que la maison d'édition Avia Consultants propose au lecteur tchèque. Son auteur Jiří Průša a réuni dans ce gros volume de 680 pages tous les mots se rapportant à la période du communisme en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire la période entre 1948 et 1989. Le livre s'appelle Abeceda Realného Socialismu, l'abécédaire du socialisme réel. L'auteur jette un regard lucide sur les différents aspects de cette époque qui semble aujourd'hui drôle et absurde et devient même incompréhensible pour les jeunes qui ne l'ont pas vécu. Même ceux qui ont encore en mémoire les aberrations du communisme s'amusent en lisant ce livre, mais souvent leur sourire se fige et cette lecture leur donne les frissons dans le dos. Le lecteur de l'abécédaire du socialisme réel y trouve, entre autres, cette caractéristique de ce système plein de paradoxes que les gens se racontaient comme une blague. Tout le monde a du travail, mais personne ne travaille. Bien que personne ne travaille, le plan est accompli à 100%. Bien que le plan soit accompli à 100%, il n'y a rien à acheter. Bien qu'il n'y ait rien à acheter, les gens ont tout ce dont ils ont besoin. Bien que les gens aient tout ce dont ils ont besoin, tout le monde vole. Bien que tout le monde vole, rien ne manque. ceux qui ont vécu sous le socialisme et n'ont pas la mémoire courte se rappellent bien ces paradoxes, ces mensonges quotidiens dont la propagande officielle leur rabâchait les oreilles. Le socialisme réel était bien souvent irréel et beaucoup de ses aspects n'existaient que dans l'imagination des idéologues du régime qui s'inspiraient à Moscou. Les plus courageux qui osaient dire la vérité étaient réduits au silence, exclus de la société, emprisonnés, et dans les années 1950, certains d'entre eux ont été même exécutés. C'est ce violent contraste entre la réalité quotidienne et la propagande officielle, un des aspects les plus caractéristiques de l'époque, que Jiří Prouša fait revivre dans sa curieuse encyclopédie. Voilà comment il explique la genèse de son livre.
Au début, ce n'était qu'une plaisanterie. Je me suis aperçu que les aspects et la langue du socialisme réel étaient en train de disparaître. Il s'est avéré, lors d'une discussion avec des jeunes gens, qu'ils ne savaient pas ce qu'était la vieille Denis Doloshka, permis de voyager, ou le devisovi pchislib, allocation de devises, etc. Je me suis dit qu'il serait bien de ne pas laisser disparaître tout cela. Au début, ce n'était pour moi qu'un hobby. Tout d'abord, j'ai écrit quelques 300 à 400 articles encyclopédiques avec lesquels j'amusais ma famille. Puis j'ai commencé à compléter ces informations, à ajouter de nouveaux articles, à chercher sur Internet. Et quand j'en ai eu 1000 à 1200, je les ai publiés sur mon blog, provoquant ainsi une grande discussion. Je ne désirais pas donner à cette discussion un caractère politique. Je la voulais surtout objective.
L'auteur a fini par écrire pour son encyclopédie quelques 2300 articles et s'est associé avec la photographe Dana Kindrova qui a ajouté à son livre 48 photos jetant un regard très évocateur sur la vie sous le communisme. Cette triste période a paradoxalement fait naître d'innombrables blagues dont beaucoup étaient politiques. Ces blagues circulaient parmi les gens et démontraient que les Tchèques étaient capables de concevoir leur situation avec humour et de se moquer du régime qui leur avait été imposé. Jiří Prouša cherche une explication à cette explosion d'humour populaire.
Je pense que c'était la conséquence du régime qui avait beaucoup d'aspects absurdes. On disait quelque chose, on pensait quelque chose et on faisait quelque chose. Et souvent, ces trois activités n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Les gens avaient donc probablement besoin d'y réagir de quelque façon. Je pense que l'humour et le sport étaient les seuls domaines où les gens pouvaient simuler une certaine démocratie. La liberté de la parole n'existant pas, ils pouvaient au moins raconter des blagues entre amis et montrer dans l'intimité quelles étaient leurs véritables opinions. C'était un peu comme dans les sports, où ils pouvaient supporter l'équipe tchécoslovaque de hockey contre l'équipe soviétique. Je pense donc que c'était dû à l'absurdité et au manque de démocratie.
Jiří Prouša cite dans son texte 300 blagues de ces riches productions humoristiques qui semblaient inépuisables parce que le régime arbitraire et sa politique donnaient toujours de nouvelles impulsions et de nouveaux thèmes à ce genre de création humoristique. Les gens riaient entre autres de cette caractéristique du socialisme qui faisait ressortir l'absurdité du système. Sous le socialisme, les travailleurs font semblant de travailler et l'État fait semblant de les payer pour cela. Telle était une des maximes nées de cette créativité populaire qui faisait rire les gens de cette époque qui auraient été bien tristes sans cet humour caché. Pour évoquer la presse officielle de l'époque, Jiří Prouša cite dans son livre aussi les titres d'articles du journal Rudé Pravo, organe du Parti communiste. La langue de bois de ces articles parus dans les années 1950 et 1960 fait sourire, mais ils illustrent aussi les aspects sombres du régime totalitaire. En travaillant sur cette encyclopédie, l'auteur lui-même a appris beaucoup de choses sur cette période qu'il croyait connaître.
Je n'ai composé de mémoire que 300 à 400 articles, mais dans mon livre, il y en a finalement 2300. Il est donc évident que la signification de beaucoup de ces mots était pour moi peu connue, sinon tout à fait nouvelle. Je me suis rendu compte pendant ce travail que notre orientation vers l'Union soviétique avait déjà commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, tant par l'intermédiaire des hommes politiques du gouvernement en exil à Londres, autour du président Edvard Beneš, que par les exilés à Moscou, regroupés autour du futur président communiste Clement Gottwald. En réalité, ces deux groupes s'entendaient à merveille. J'ai réalisé donc que déjà au cours des années 1945, 46 et 47, donc avant la victoire communiste de février 1948, ce coup d'État avait été préparé et qu'il n'y avait eu personne pour s'y opposer. C'était quelque chose de nouveau pour moi.
Aujourd'hui encore, les avis sur cette époque divergent et ne font pas l'unanimité dans la société tchèque. Pour beaucoup, c'est la période de la jeunesse, le matin de leur vie, et ils ont tendance à l'idéaliser. Aujourd'hui encore, beaucoup de téléspectateurs suivent passionnément et avec beaucoup de plaisir sur le petit écran les séries télévisées tendancieuses de cette époque. Comme il fallait s'y attendre, Jiří Průša a provoqué par son livre la désapprobation de ces nostalgiques du socialisme.
Beaucoup de gens me critiquaient sur mon blog et disaient « Regardez ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas mieux, au contraire c'est pire ». Moi j'y vois deux types de nostalgie. La nostalgie de la jeunesse ou de la période où nous étions tous plus jeunes, au moins de 25 ans, et aussi la nostalgie de ce sentiment de sécurité que le régime donnait dans une grande mesure aux gens. Sentiment qu'ils seraient payés 2000 couronnes par mois s'ils travaillaient, et même s'ils ne travaillaient pas, parce que ce n'était pas important. Je crois que cela convenait à beaucoup de gens, et que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ils apprécient toujours les feuilletons télévisés de cette époque.
Deux décennies seulement se sont écoulées depuis la révolution qui a mis fin sans violence au régime communiste en Tchécoslovaquie. En s'éloignant dans le temps, cette période perd son caractère et semble moins mauvaise et plus drôle. La mémoire a tendance à idéaliser le passé, à effacer les mauvais souvenirs et à ne nous faire retenir que les bons. L'abécédaire du socialisme réel est donc un livre qui vient à temps pour faire ressurgir le passé dans sa complexité et rafraîchir notre mémoire.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire consacrée aujourd'hui au livre « L'abécédaire du socialisme réel » que s'achève cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée par Magdalena Hrosinková, réalisation Irena Viernochová. Je vous retrouve demain dans le magazine musical. Bonne fin de week-end, au revoir, naslyšenou.
Radio